Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Nouvelle semaine qui commence à la suite des informés avec Adine Farkan que vous pouvez retrouver dès demain sur l'antenne de Beurre FM à partir de 19h et aussi sur les replays, notamment sur le site internet beurrefm.net et sans oublier l'application Beurre FM. Au menu de cette émission ce lundi soir, lundi 18 septembre, on va parler de quoi ? On va parler du Paris Saint-Germain, qui a été avalé à la salade niçoise, hein, c'est ça. Ça a été assez incroyable du côté du Parc des Princes, hein, vendredi soir, à l'approche justement du match des demain, hein, le premier match des phases de poule de l'édition 2023-2024, excusez-moi, de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. On reviendra largement dans cette émission. Marseille n'y arrive pas, n'y arrive plus du moins. Les supporters savent plus quoi penser, notamment de son entraîneur qui est Marcelino, et puis s'en va. C'est la question que l'on se pose justement avec le débat du jour. Le PSG, la reconstruction de ce Paris Saint-Germain sera-t-elle longue selon vous? Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir avec nous en live sur l'antenne de Beurre FM, votre radio, chers auditrices et auditeurs. D'ailleurs, on accueillera pour la première fois avec nous Thibaut Sirien, représentant de la Fondation du Sport Français. Voilà, ça sera après la pause. Rien de plus simple pour commencer cette émission en présentant le magnifique plateau qui m'accompagne en ce lundi soir.
Time Sport. Il est pour parler.
Un petit clin d'œil aussi à la réalisation, la personne de Solal, notre réalisateur, le 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard. Il fait sa rentrée dès ce soir, c'est Alexis qui nous avait tant manqué. Bonsoir Alexis, comment ça va?
Salut Bilal, bonsoir à tous. Je me suis bien préparé physiquement, donc normalement ça devrait aller pour tenir la saison. On a eu encore un beau week-end de sport avec un peu de foot, beaucoup de rugby, un peu de Formule 1, donc c'était très sympa. Hâte de débriefer tout ça avec vous.
Ah ben voilà, ça c'est sûr. Juste en face, on va retrouver Boula. Bonsoir Boula, comment ça va Boula?
Alhamdoulilah, tout va bien.
Ça va, tout va bien Boula. Dieu merci. Hein, c'est bien ça. Hein, je fais la traduction, t'inquiète pas. Et Hervé, juste en face de toi.
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Beurre FM et aussi aux fans de Formule 1. On assistait à un très beau Grand Prix hier à Singapour.
C'est ça, Singapour.
Avec la victoire de Sainz, Carlos Sainz, première victoire de Ferrari en cette saison 2023.
Ah ben, tu fais bien d'en parler justement. Hein. Verstappen, ouais, c'est bon, ça sera le nouveau sacre, quoi, encore une fois.
Bon, sauf retournement de.
Ça devrait aller, ouais.
Sauf catastrophe industrielle, et je pense qu'il court, il file vers son troisième titre consécutif.
Ouais, et aussi, concernant la planète rugby, allez, un petit mot. Il voulait en découdre concernant le rugby. C'est Alexis.
Ah, bah
Alexis.
Oui, non, hier, c'était cette Coupe du Monde 2023. Ce week-end, voilà, on a eu les Fidji qui ont battu l'Australie dans un super match. On a eu aussi l'Angleterre qui a fait un assez bon match hier contre le Japon, qui est une bonne équipe. Donc voilà, ça avance tranquillement. La France, c'est jeudi. Contre la Namibie, donc il va falloir faire un gros match pour faire un petit peu mieux que contre l'Uruguay. Mais pour l'instant, on a quelques surprises, on a des beaux matchs, donc il y a une belle ambiance dans ce mondial français, donc ça fait plaisir.
Ça fait plaisir à tout le monde et à tous et à toutes. Justement, le 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard, on le rappelle. Place au Paris Saint-Germain, peut-être un petit clin d'œil au réalisateur, c'est Solal. Solal, bonsoir. Vendredi, il a pleuré, Solal, je crois. Hein. Défaite du Paris Saint-Germain face à Nice. Peut-être on va avoir Anthony en plus. Anthony, notre aiglon, justement.
Lui, il n'a pas dû pleurer.
Ah, Anthony,
lui,
il était heureux. Il était dans le COP, il était dans le quart de virage
aussi,
avec
l'Insoir.
Non. Non, moi j'étais.
J'ai pas eu le temps.
Révélons aux auditeurs de Beurre FM, avant l'émission, tu as dit être heureux de la défaite de Paris.
Ah non, j'étais heureux, moi, de la défaite de la Namibie. Justement, face aux All Blacks.
Moi aussi, j'ai entendu ça.
All Blacks. Non, j'étais pas. Moi, bon, j'attends le match de demain face au Borussia. On va laisser la parole.
Définitivement heureux.
On va laisser la parole à Solal. Solal, comment ça va?
Bonasera à tutti. Ça va super bien. En effet, j'ai vidé toutes les larmes de mon corps vendredi. J'étais très triste. Mais bon, voilà, début de saison.
Ça fait rien, début de saison.
Un peu mitigé, on va voir. On va prendre le temps. Mais en tout cas, je le rappelle, on a un numéro. Voilà, moi, je réponds au standard. C'est le 01 53 48 3000. Je vois déjà le standard s'enflammer. Ça annonce une belle soirée. Que dire de plus?
Ah ben voilà, et à 21h on accueillera Vanessa comme il se doit jusqu'à 23h, chers auditeurs et auditrices, avec justement toi Alexis. Les Parisiens, défaite sur leur pelouse face à Nice, hein, Mofi par deux fois, et aussi Gaëtan Laborde, et on aura remarqué le doublé tout de même de l'international français qui n'est autre que Kylian Mbappé.
Non, Nice a fait un très bon match, j'ai trouvé mérité sa victoire. Alors Kylian, il a essayé de faire ce qu'il pouvait avec un milieu de terrain. C'était marrant d'ailleurs qu'il rende hommage à Marco Verratti avant le match parce qu'il s'en va, et de voir la pauvreté du milieu de terrain parisien dans le match de vendredi. C'était pas terrible. Après, bon, c'est le début de saison, mais on est déjà à 2 nuls, 1 défaite sur 5 matchs. Donc, bon, on va voir. Mais la patte Luis Enrique, pour l'instant, c'est dans la tronche, hein, ouais. Si je peux me permettre.
Hervé,
je confirme les mots d'Alexis. Enfin, c'est moi, ce qui m'a vraiment attiré l'attention, c'est vraiment le manque de créativité du milieu de terrain parisien. On a vraiment l'impression qu'on a un milieu de terrain qui manque de relief, qui manque aussi de rythme. Il a vraiment fallu l'entrée de Ugarte pour voir autre chose au niveau en termes d'intensité. Et quelque part, moi, ça me fait un peu peur. Ça me fait peur de me dire que sans Ugarte, on voit quand même un milieu de terrain quand même qui est assez léger. On voit comme un milieu de terrain qui manque parfois d'impact lorsqu'il joue contre une équipe qui leur impose un défi physique. Et la deuxième chose aussi qui m'a interpellé, c'est que j'ai parfois eu l'impression que Dembélé et Mbappé ghostaient Gonçalo Ramos. J'avais l'impression qu'à certains moments, ils ne voulaient pas jouer avec Gonçalo Ramos. Est-ce que c'est juste un manque d'automatisme ou est-ce que c'est parce qu'ils essayent de pousser pour que Colomani prenne la place? Je me pose la question. Mais en tout cas, on a un Paris Saint-Germain qui tâtonne. J'espère que contre Dortmund, ils vont sortir le bleu de chauffe. Auquel cas, ils commenceraient la Ligue des Champions sur le mauvais pied.
Paris Saint-Germain-Dortmund, c'est dès demain, 21h, du côté de la Porte d'Auteuil.
Le groupe est très difficile. Hein.
On le rappelle, hein, le groupe F avec le Paris Saint-Germain-Dortmund.
Et Milan, quand même.
Et c'est ça. Ouais, c'est ça.
C'est pas simple.
Les bookmakers nous disent 54% de chances pour le Paris Saint-Germain de l'emporter. 23% sur un match nul et 23% pour une victoire du Borussia Dortmund. On va écouter Boula. Le Paris Saint-Germain version Enrique.
Pour moi, l'analyse, je suis pas d'accord avec Hervé et Alexis au niveau de Verratti. Je pense que l'effectif du PSG, il y a plus de qualité que Verratti déjà. Je reviens à ce que Hervé dit. Là où il a raison, c'est qu'à un moment donné, Dembélé, il est pas dans le quartier ou dans la cité. Ouais. À un moment donné, il doit donner le ballon à Ramos. Je pense que s'il met le ballon à Ramos, ça fait 1-0. Là, c'est un autre match. Après, ça joue sur des détails individuels.
Ouais.
Faut que Dembélé l'apprend à jouer avec les autres. Et c'est une de ses qualités aussi.
Oui.
Mais à un moment donné, la frappe qu'il met, il doit pas frapper, il doit la mettre à Ramos. Et Ramos, il était décalé, il était même dépité sur cette action-là, qu'il lui ait pas donné le ballon. Maintenant, je pense que le jeu du PSG, c'est un jeu de qualité. C'est un jeu de qualité avec le coach. Après, moi, Skriniar, pour moi, c'est un joueur moyen.
Oui.
C'est pas un gros joueur. Je pense que physiquement, il est en retard, même sur le crochet.
Il revient d'une grosse blessure.
Je suis pas là pour faire du social. Tu sais, quand tu joues le Dortmund, demain, je pense qu'il revient d'une blessure. Je l'ai vu sur 2-3 matchs. J'ai vu qu'il est lourd. Il est très lourd.
Est-ce que Paris est meilleur en stock actuellement?
Oui, c'est dommage, il est blessé, c'est Kimpembe. Il y avait sur le banc de touche,
Danilo?
Non, pas Danilo, il y avait qui a pas joué. Parce que Danilo, il était titulaire.
Ouais, mais il a pas fait un très bon match d'ailleurs.
Oui, mais il a pas fait un très bon match. Je comprends pas pourquoi il était remplaçant. Je sais pas. Moi, il fait partie des meilleurs défenseurs du PSG. Bon, après, il veut faire tourner.
Marquinhos, ça fait quand même. Excuse-moi de te couper. Ça fait quand même depuis l'élimination contre le Real
Madrid,
contre un an et demi qu'il a la tête dans le seau. Marquinhos, faut oublier que depuis comme un an et demi, il multiplie les contre-performances. Il dégage pas beaucoup de sérénité entre lui. Et Donnarumma, je suis supporter parisien, je suis pas rassuré, tu vois. C'est très fébrile.
Il y en a beaucoup qui sont pas rassurés.
Quand tu me dis, comme tu me dis, le gros problème aussi, quand tu me parles de Donnarumma, je pense que techniquement, avec les pieds, il est fâché avec ses pieds. Je pense qu'il a.
Il est fâché avec les sorties aériennes aussi, Donnarumma.
Après, sur la ligne, c'est vrai que c'est un super gardien.
Ouais, c'est vrai.
Mais quand tu regardes Navas ou quand tu regardes Hugo Lloris, qui était sur le marché, qui a une grosse qualité de pied.
Qui est
international français en termes d'image, je pense que tu vois, après c'est au niveau des choix. Après quand je vois Barcola, je pense que il a rien à foutre à Paris. J'aurais préféré prendre Eli Wahi, qui est techniquement, dans la lecture technique de l'entraîneur, il correspond au jeu de qualité. Mais Barcola, c'est tout sur la puissance, sur les contres.
Ouais.
Ça, moi, pour moi, il y a des joueurs. Je pense qu'il y a eu un business autour du PSG. Il y a eu un business et ils ont fait des joueurs qu'à un moment donné, ils les ont fait en termes de business par rapport à Mendes. Ouais,
ça fait 10 ans qu'ils font ça. Hein.
Non mais là, c'est flagrant quand tu vois les qualités d'Eli Wahi et quand tu vois le jeu de l'entraîneur. Est-ce que tu penses que Barcola, il a dans la lecture technique et tactique, dans le placement, Tu sens que
après c'est vrai que la demi-saison avec Lyon l'année dernière qui fait la deuxième partie de saison, ouais. Barcola est extraordinaire.
Mais sur la vitesse, sur la puissance. Sur la vitesse et sur la puissance. C'est vrai, c'est vrai. Après t'as deux sortes d'entraîneurs. T'as les entraîneurs qui aiment bien jouer en contre, qui aiment bien jouer en contre. T'as bien vu Lens dans quel état ils sont. Après c'est un problème de qualité de jeu. Aujourd'hui quand tu regardes Nice. Pourquoi ils ont gagné? C'est une qualité de l'entraîneur. Ouais. Et en plus de ça, il arrive dans une équipe où il y a une fluidité de qualité de joueur et il arrive à faire jouer cette équipe. Alors, moi j'ai vu les trois premiers matchs du PSG, je me suis régalé. Maintenant sur ce match-là,
ils sont pas sur notre
moyen. Dembélé, à un moment donné, faut qu'il comprenne que l'action qu'il a, il doit la faire. Tu prends un mec comme Kylian qui a 50%. Parce que pour moi, il était à 50-60%. Il arrive à te mettre deux buts. Après, à un moment donné, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont un groupe, c'est un collectif. Et ce qui va faire la différence du PSG, c'est le collectif.
Ah ouais. Merci, Boula. Le 01 53 48 3000. D'ailleurs, on a deux consultants qui nous écoutent, hein, du côté de l'Italie avec Nasser et sans oublier aussi Cheikh et Match, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Allez, le 01 53 48 3000. On va prendre Tariq qui nous appelle depuis la région parisienne. Bonsoir, Tariq. Comment ça va?
Bonsoir, ça va et vous?
Ça va très bien, Tariq. Malheureusement, la défaite du Paris Saint-Germain face au Niçois, Tariq, hein, on en pense quoi?
Moi, franchement, personnellement, je ne m'y attendais pas du tout, vu le début de saison que le Paris Saint-Germain avait fait. Ce qui a été mis en valeur lors de cette défaite-là, je pense que ça va être compliqué sur la durée, surtout par rapport au milieu de terrain. Je pense qu'au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre, en faisant tourner, de se retrouver avec un solaire au milieu de terrain. Vendredi, on a joué à 10 contre 11, parce que c'était pas possible. C'est pas quelqu'un, je n'en veux pas du tout, je pense pas que c'est un mauvais joueur. Mais en tout cas, il a rien à faire au Paris Saint-Germain, et il a rien à faire, même sur le banc du Paris Saint-Germain. On ne peut pas se reposer sur un joueur comme ça. Et moi, ça me fait du mal. Moi, je suis partisan du fait que quand un joueur veut partir, on le laisse partir, mais quand je vois un Marco Verratti qui est parti et qui n'a pas été remplacé, je pense que ça risque d'être compliqué à la longue. À la longue, pour le Paris Saint-Germain, d'être déjà dépendant d'un Ugarte ou dépendant d'un Vitinha ou d'un Warren Zaïre-Emery, je trouve que ça peut être compliqué. Et moi, c'est vraiment sur ce plan-là que je me pose des questions, vraiment sur le milieu de terrain. J'étais pas trop d'accord avec vous sur la défense, parce que ouais. Je pense que là, c'est une erreur du coach. Ouais. D'avoir mis Danilo et Skriniar, deux défenseurs qui sont assez lourds et assez lents. Début de saison, je trouve que la paire Marquinhos et Skriniar, elle a donné satisfaction. Je pense que là c'est le
Marquinhos qui est quand même en soutien. Très important.
Bien sûr. Et je trouve que les deux, ils font la paire. Un qui arrive à prendre la profondeur avec la vitesse de Marquinhos, et un autre qui est assez dur sur l'homme, qui prend toute la tête et qui est un petit peu à l'italienne, qui met des coups, par-ci par-là. Je trouve que l'affaire, elle va très bien. Et puis, en attendant, peut-être le retour d'Anuno Mendes, qui pourra aussi nous laisser le choix, d'Atteo Hernandez aussi dans l'axe. Je pense que là, on n'a pas d'inquiétude à se faire sur la défense. Après, je suis d'accord avec vous, pour Donnarumma, c'est encore un autre débat.
On va rester ensemble, Tariq. On va accueillir notre invité. On va marquer d'une courte pause et on vous reprendra après pour revenir sur le Paris Saint-Germain et notamment aussi sur l'Olympique de Marseille. A de suite, Tariq.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM en ce lundi soir, toujours en compagnie, 20h17, c'est l'horaire, avec Alexis, Boula et sans oublier Hervé. Place à l'invité de ce soir.
Time Sport. The Special One, The Special One.
Eh oui, c'est Thibaut Serrier qui est avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM de la Fondation du Sport Français. Bonsoir Thibaut, comment ça va?
Bonsoir à tous, ça va très bien et vous?
Ça va très très bien Thibaut, on rappelle un peu la Fondation du Sport Français, hein, qui est reconnue tout de même d'utilité publique et qui a pour mission principale de promouvoir le sport comme vecteur de lien social à travers des actions innovantes et sociétales. Justement, on aimerait un peu s'attarder avec vous. Allez, on va prendre une bonne dizaine de minutes pour revenir. Année des Jeux Olympiques d'été en France, hein, ça fait longtemps qu'on les avait pas eu. Paris 2024, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on n'est pas prêt? Du moins, c'est la question que l'on vous pose, vraiment, grand public, ce soir, à vous, Thibaut.
Effectivement, année des Jeux, là, on sent dès septembre que l'activité reprend et on est parti pour une année qui va nous conduire jusqu'à l'événement Paris 2024. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses à construire au niveau de l'héritage des Jeux en tant que tel, c'est-à-dire tout ce qui va se passer au-delà de l'événement et au niveau aussi des sportifs qui vont concourir à Paris 2024. comment les aider, comment les accompagner dans leurs projets. Voilà, c'est un peu toute cette dualité qu'il faut réussir à gérer, en même temps accompagner les sportifs, les mettre dans les meilleures conditions, et en même temps faire en sorte que toute la population puisse profiter de l'événement Paris 2024, et que en septembre 2024, on puisse aller dans un club et faire de la pratique sportive encore et encore plus, du sport en entreprise, du sport un peu partout en fait. C'est un peu l'idée et l'objectif avec ces Jeux de Paris.
Bien sûr. Voilà, on enchaîne avec une première réaction, celle de notre consultant Hervé.
Oui, bonsoir, pour Thibaut Siri. J'avais une question, parce qu'on a un public assez assez large. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement en quoi consiste le pacte de performance que vous avez essayé de mettre en place ces derniers temps?
Oui, bien sûr. Du coup, le pacte de performance, c'est un dispositif qui existe depuis 2017, où en fait, on s'appuie sur le dispositif du mécénat, donc qui est un dispositif qui permet aux entreprises de bénéficier de déductions fiscales pour soutenir des athlètes de haut niveau, des athlètes paralympiques et des athlètes olympiques dans le cadre de leur projet sportif, et aussi avec toute une vision dans le cadre de leur projet de vie, pour essayer vraiment que l'accompagnement qu'on puisse mettre en place avec les entreprises puisse aussi bénéficier à la reconversion des sportifs et des sportifs, qui est aussi un sujet. Et du coup, c'est vraiment ça l'objectif, c'est de pouvoir trouver une bourse de mécénat avec une entreprise et pouvoir ensuite le mettre en lien avec les sportives et les sportifs qui sont le plus en demande et en besoin.
Le sport est important.
Il faut savoir que... Ouais.
Mmh. Allez-y.
Il faut savoir que de manière générale, c'est vrai que l'accompagnement des sportives et des sportifs de haut niveau, c'est quelque chose de très important qui s'est beaucoup développé les dernières années. Mais quand on était aux Jeux de Rio en 2016, il y avait près d'un sportif sur deux qui était présent aux Jeux, qui ont fait rêver les Français et qui était sous le seuil de pauvreté à l'année. Donc on était quand même dans une situation assez inquiétante, puisque derrière les quelques sportives et sportifs qui ont beaucoup d'exposition médiatique, il y a tout un ensemble de sportifs et de sportives qui sont beaucoup plus en demande. Et donc voilà, il y a aujourd'hui l'Agence nationale du sport qui fait beaucoup d'efforts et d'accompagnement pour ces sportifs. Il y a aussi du coup beaucoup de dispositifs qui se mettent en place autour. Et la Fondation du sport français et le pacte de performance dont vous parliez, c'est un de ces dispositifs qui est une aide concrète pour les athlètes. Depuis l'année 2022, on a plus de 350 athlètes qui sont accompagnés. Ça représente environ 10 millions d'euros qui sont reversés directement aux sportifs.
Mais est-ce que, bonsoir Thibaut, mais est-ce que justement, parce que là, à l'approche des Jeux, on entend de plus en plus de sportifs, j'en entendais une encore l'autre jour, expliquer que elle n'arriverait pas à joindre les deux bouts jusqu'au jeu, alors que pourtant elle a toutes les chances de se qualifier et de faire des performances. Est-ce que vous trouvez que justement, il n'y a pas une carence de ce point de vue-là de la part des ministères et des fédérations pour aider encore plus, parce qu'on a les Jeux chez nous, tous ces entre guillemets petits sportifs, alors petits sportifs pas par la performance, mais par l'exposition médiatique ou parce qu'ils vont gagner dans leur pratique quotidienne du sport. Vous êtes là, mais est-ce que vous n'êtes pas un petit peu tout seul dans cet accompagnement? Et est-ce qu'il ne faudrait pas justement faire passer des messages au ministère et aux fédérations qu'il faut se bouger, parce que c'est le rêve d'une vie d'avoir les Jeux à la maison?
Après, aujourd'hui, l'action qu'on mène, elle est de concert avec les ministères, avec les fédérations, avec l'Agence nationale du sport dont je parlais tout à l'heure. L'objectif, c'est que tous les sportifs qui soient aux Jeux en 2024, il soit un revenu minimum de 40 000 euros sur l'année. C'est le seuil qui a été fixé. Après, effectivement, il y a des athlètes qui sont encore en difficulté, et notamment ceux qui sont malheureusement un peu à la limite. Et c'est eux aussi qu'on essaye de particulièrement accompagner en ce moment, pour que tous puissent avoir un peu la même chance de pouvoir aller au bout du rêve olympique, paralympique. C'est en tout cas l'objectif, mais c'est sûr que aujourd'hui, ça demande une concertation minutieuse entre les différents acteurs pour pouvoir vraiment être le plus proche possible des besoins des athlètes.
Mais justement, j'entends tout à fait ce que vous dites, et oui. je veux pas vous pousser à dire des choses contre votre gré ou qui pourraient desservir votre fondation.
Pas là pour
mais,
ça, quand même.
Je crois qu'il y a un vrai manque aussi de la part des structures étatiques, mais également des entreprises qui, selon moi, mais ce n'est que mon petit point de vue, ne se sont pas assez investis pour pousser justement à la performance, et qu'on va pas se retrouver avec des situations comme par exemple à Pékin où les Chinois font énormément de médailles. Oui. Je pense que le sport français est en train malheureusement de perdre du niveau, alors que le fait d'avoir les Jeux, ça devrait être censé faire exploser dans toutes les générations le fait de pratiquer le sport de manière qualitative.
Mais la Fondation du sport français est là pour ça.
Mais heureusement qu'ils sont là, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont un peu tout seuls.
Moi, je voulais te demander, là, quand on parle des sportifs en général, on a eu deux années de Covid, et quand tu prépares les Jeux Olympiques pour être au top mondial, parce que je pense que c'est là, quand tu prépares les Jeux Olympiques, tu prépares le top mondial. Est-ce que tu penses que les 2 ans de Covid, ça a joué, ça, parce que quand il dit, ouais, on n'a pas de résultats au niveau sport français, je pense que il n'y a pas eu assez d'investissement par rapport à ce qui s'est passé pendant le Covid. Et je pense qu'après, c'est un problème de compétences. Je pense que c'est un problème de compétences, parce que là, quand tu fais appel pour, tu crées, ce petit concept, pour améliorer les trucs. Je pense que, est-ce que la ministre des Sports est consciente que le sport va mal, est-ce que le sport va mal en France par rapport aux les résultats qu'il y a eu là les 6 derniers mois? Je pense que les résultats sont pas, je pense qu'ils ont pas une culture de la victoire, ils n'ont pas une culture de la gagne. Je pense qu'il manque des bouts en train qui
et de l'argent, il manque de l'argent, Boulogne.
Non, je pense que c'est un problème de compétence. Je pense que c'est pas un problème d'argent. Oui. Je pense qu'on a des gens compétents et il y a des gens qui prennent des places, je pense qu'ils devraient pas prendre des places. Après, je pense que c'est plus le problème. Maintenant, quand on dit de l'argent, je dirais que la formation de tout ce qui est entraîneur, éducateur, on va pas chercher les compétences. C'est toute une machine de gens qui travaillent autour du sport et qui veulent, genre, tu vois, qui veulent montrer leur talent. C'est comme tu prends au football. Alors, ils ont inventé la data. Qui regarde, ouais, pour recruter au niveau des performances. Et là, tu sens que Toulouse, ils travaillent sur la data. Ouais. Et tu sens que, voilà, il y a 4-5 clubs qui travaillent là-dessus. C'est une réflexion qu'ils ont eue pour améliorer, une cellule de recrutement et de voir un peu les qualités qu'il y a dans le monde entier.
Là, c'est un outil au service du sport français, il faut le rappeler aussi. Oui, avec Thibaut Sirier, on est toujours ensemble.
J'avais une question à poser à notre interlocuteur.
Alors, notre invité, Thibaut.
Thibaut, quand vous voyez un peu la pauvreté du bilan français lors des championnats du monde d'athlétisme qui sont déroulés le mois dernier, quand vous songez à l'élimination précoce des basketteurs français, pareil, lors des derniers mondiaux, est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Parce que oui, certes, on va accueillir les Jeux Olympiques, mais il faudrait pas non plus qu'on se ridiculise en mondiovision. Donc est-ce que vous n'avez pas une petite inquiétude à 7-8 mois des... Enfin, peut-être pas 7-8 mois, mais à 9-10 mois de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024?
Je pense en tout cas que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les athlètes puissent se focaliser vraiment sur la saison qui arrive et pouvoir arriver au meilleur niveau de performance en 2024. Après, effectivement, vous citez des exemples qui ont été un peu malheureux dans les 2 derniers mois. Il y a aussi eu quand même des réussites. Je pense à Marie-Florence Candassani, par exemple, qui est devenue championne du monde en escrime, qui n'était pas forcément attendue. Ça montre aussi qu'il y a des potentiels et il y a des champions olympiques et des championnes olympiques dont aujourd'hui on a presque pas connaissance, j'allais dire, enfin qu'on voit pas forcément venir et qui, le jour J, arriveront et seront sans doute sur le toit du monde et peut-être qu'arriver en 2021 avec Romain Cannon, etc. Mmh. Je pense que de manière générale, aujourd'hui, la priorité, elle est vraiment de pouvoir accompagner au mieux les sportifs et mettre dans les meilleures conditions. J'entendais votre débat qui est très intéressant sur les compétences et comment faire tout ça. À 9 mois des Jeux, on ne va pas révolutionner le système. De
ça, façon, c'est sûr.
Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de prendre le pool d'athlètes qu'on a et de le mettre dans le meilleur niveau et les meilleures conditions pour performer. On ne va pas prendre la future petite. Mais aujourd'hui, on peut, notamment grâce aux entreprises, notamment grâce au mécénat sur le pack de performance, placer les athlètes dans les meilleures conditions et leur permettre de performer aux Jeux.
On l'espère. Bien sûr.
Mais Anthony, quand tu vois le nageur qui est aux États-Unis.
C'est Thibaut. Ouais. C'est Thibaut, c'est pas Thibaut.
Thibaut, il y a un nageur, qui a tout explosé là, qui vit aux États-Unis et qui est formé là-bas aux États-Unis. Tu vois qui c'est, non?
Ouais, mais toi, tu vois.
Hein? Qui?
Théo Marchand.
Voilà, Théo Marchand. T'as vu la performance qu'il a. Après, quand tu regardes la formation qu'il a eue, tu sens que le mec, il vit aux États-Unis, il est dans sa bulle et il bosse et regarde le résultat qu'il a eu. Tu sens que le mec, il est obligé d'aller aux États-Unis pour avoir ses performances-là.
C'est comme ça, tu peux exceller aussi si tu es en France. Hein.
Non, mais ça va, il connaît.
Il connaît. Mais moi aussi, Zidane, il a excellé ici, il n'a pas excellé à.
Non, il n'a pas excellé ici, Zidane. Zidane, il a explosé à la Juve, à Turin.
Ça va. Mais il a été où? Il a été formé ici à Cannes.
Après, il lui manquait ce côté physique. Ce côté physique que les Français ont pas. Et tout. C'est pour ça que.
Mais bien sûr, mais bon.
Zidane, c'est devenu Zidane.
En tout cas, voilà. La fondation du sport français soutient et essaye de performer, c'est ça, avec ce dispositif. On est bien d'accord, Thibaut, et d'amener pas mal d'athlètes.
C'est exactement ça. Aujourd'hui, on essaye d'aider le maximum d'athlètes. On a un cadre qui a été fixé par la ministre des Sports qui est de soutenir 1000 athlètes d'ici la fin de l'année 2024. Aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, on est à environ 350.
Oui.
Je voulais en profiter aussi pour parler de l'événement qu'on fait mercredi soir.
Allez-y.
C'est un événement à l'INSEP.
Et il faut justement du côté de l'INSEP.
Le pack de performance.
Oui.
S'il y a des auditeurs de Beurre FM qui nous écoutent, qui ont des entreprises, qui connaissent des gens qui ont des entreprises et qui veulent aider le sport, qui veulent aider des sportifs.
Oui.
Il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter. Voilà. Une adresse mail soireefondationsport@gmail.com. Soirée sans accent.
Oui.
Et donc voilà, ils nous contactent et nous, on pourra les inviter à cette soirée, ou même s'ils ne peuvent pas être dispo parce que c'est dans deux jours, donc c'est proche.
Bien sûr.
On pourra leur envoyer tous les renseignements nécessaires. Et voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de créer la bulle autour du sportif la meilleure.
Ah bon, on va la créer.
Avec la Fondation du Sport, avec les fédérations, avec le ministère, avec l'agence, et que Paris 2024 puisse être une réussite.
Une réussite, on l'espère en tout cas, avec la Fondation du Sport Français, on le rappelle, Thierry Braillard, ancien secrétaire d'État chargé au sport.
Ouais, et président du CNOSF aussi.
Et eux aussi.
Non,
président de la Fondation du Sport Français.
Bilal, demande-lui s'il a des sportifs dans son...
Est-ce que... Oui, on en a des athlètes de haut niveau. Au sein même de la Fondation du Sport Français, Thibaut, c'est la question de Boula. Il demandait s'il y avait pas mal d'athlètes de haut niveau quand même, qui rejoint vos rangs.
Dans les salariés ?
Oui, dans les salariés ou même après dans les sportifs.
Ou c'est dans les salariés ou c'est quelqu'un qui adore qui est en harmonie avec votre projet ?
Au niveau de Thierry Braillard, pardon, j'ai pas compris la question.
Non, en fait, Boula demandait simplement avant la fin de cette interview si vous avez dans vos rangs, dans vos équipes de la Fondation du Sport Français, des anciens athlètes ou même des athlètes aussi à l'heure actuelle que vous suivez, justement pour les performer. En devenir de grands athlètes. Et demander s'il y avait encore des noms.
De toute façon, l'objectif de la fondation, c'est de vraiment pouvoir soutenir le plus large panel d'athlètes possible, c'est-à-dire en allant gens qui seront aux Jeux Olympiques de Paris 2024 jusqu'à ceux qui préparent déjà Los Angeles 2028 et même Brisbane 2032, c'est-à-dire, et les Jeux d'hiver, bien sûr. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir aussi se dire qu'on veut être là pour les sportifs des pôles espoirs, etc., qui ont peut-être moins de médiatisation à l'heure actuelle, mais qui pour autant, sur le début de leur carrière, ont besoin de moyens pour pouvoir, justement, comme le disait le chroniqueur tout à l'heure, pouvoir, dès le début, pouvoir mettre dans les meilleures conditions possibles, parce que c'est aussi ce qui est important et c'est le modèle qu'on aspire à créer.
Un grand merci Thibaut Serrier de la Fondation du Sport Français d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Bon succès. Merci et aussi pour toutes les informations, fondation-du-sport-français.fr. Toutes les informations seront justement sur le site internet. Voilà.
L'adresse mail fondation@gmail.com.
Ben voilà, merci à vous Thibaut.
Merci Thibaut.
Et à très vite. Allez, la suite de cette émission avec on revient sur le Paris Saint-Germain parce qu'on n'en avait pas terminé avec le Paris Saint-Germain. Et oui, Boula avec Hervé et aussi sans oublier Alexis.
Moi je disais, en venant sur le Paris Saint-Germain, il y a un joueur qui a été exceptionnel.
Vas-y Boula.
C'est le petit Asensio qui est blessé.
Et dans Asensio, quand j'ai vu,
dans l'efficacité, je pense que dans le joueur offensif, c'est un joueur qui est pas mal.
Joueur qui est pas mal, Asensio. Bon, ouais. C'est Boula. Ouais, il est resté sur Asensio. Bon, on a terminé sur le Paris Saint-Germain. Ouais, après, on va partir du côté de Marseille.
Non, voilà.
Asensio.
Pour clôturer. Vas-y. Asensio fait un début de saison assez
surprenant. On a calé
Tariq. Je pense que beaucoup d'observateurs ou même de supporters parisiens ne s'attendaient pas à ce qu'il fasse un début de saison aussi intéressant. Alors, je pense pas qu'il puisse prétendre à une place de titulaire, mais parmi les 12-13, je pense qu'il aura largement son mot à dire. Après, globalement, je m'inquiète pas pour le Paris Saint-Germain, dans le sens où je pense qu'ils ont, quand tu vois la médiocrité des poursuivants de Marseille, de Lens, je pense qu'ils ont quand même un gap sur le reste de la meute.
Attention à Monaco, quand même.
Attention à Monaco, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, je me dis, voilà, est-ce que le manque de créativité au milieu de terrain ne va
pas... C'est ça qui leur manque, c'est un vrai créateur au milieu. Hein.
Clairement, est-ce que ça va pas à court, moyen terme leur porter préjudice en Champions League?
Bon, après au moins on va savoir tout de suite parce que là dans quelques semaines déjà, ils vont jouer l'OM, ils vont jouer 2-3 matchs en C1, au moins on sera tout de suite fixé, pas comme les autres années où jusqu'à décembre on pensait que tout allait bien et puis on se réveillait en février en se prenant une
Quand tu parles de créateur, le petit chinois, il était pas mal non plus hein.
Il est pas chinois.
Bon, mais c'est pas chinois.
Le petit coréen, il est sorti sur les applaudissements.
Chinoise et coréenne.
C'est pas pareil. Non, mais le petit coréen, il était.
C'est pas pareil.
En venant sur ce joueur, il a été exceptionnel. Il était sur un but, sur deux passes décisives.
Mais après, Boula, quand je t'entends dire tout à l'heure, je me suis régalé en regardant le début de saison de Paris. Il y a le match contre Lens qui est bon. Le match contre Lyon qui est bon, mais contre une équipe malade. Les deux premiers matchs de la saison contre Lorient et je sais plus qui.
Lorient et Toulouse,
c'est des matchs très très moyens. Donc je trouve qu'il n'y a pas de quoi se réjouir.
Merci.
Très moyen, mais ils ont été faire 0-0 Toulouse à Marseille.
Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Après, quand tu dis très moyen, je pense que c'est une équipe qui a des qualités. Ils ont gagné la Coupe de France.
Merci Alexis et Hervé. Vous restez avec nous pour la dernière partie de cette émission avec l'Olympique de Marseille.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de Boula, Alexis qui fait sa rentrée et aussi Hervé, lundi soir, lundi 18 septembre, 20h36. Avant d'accueillir Vanessa, 21h, 23h. Et oui, Boula, tu resteras peut-être après avec nous dans le studio pour l'émission de Vanessa. En tout cas, vous restez bien camponnés. On a qui? On a Khalid et on a aussi, je crois que c'était Tariq Menon. Allez, la dernière partie de cette émission avec l'Olympique de Marseille.
Time Sport, le mode pressing.
Tu te moques de moi, tu dis que je souris. Moi, peut-être quand j'aperçois Ougarté, c'est magnifique du côté du Paris Saint-Germain.
Parce que tu bafouilles.
Mais je sais pas. Non,
tu bafouilles
je bafouille
beaucoup
pas.
Comme le football olympique de Marseille. Très brouillon.
Non.
C'est très confus.
Je bafouille.
C'est à l'image de ton équipe de cœur,
Alexis,
qui nous a livré une prestation vraiment fade.
Je rêve où il
attaque le capitaine.
Il y a une mutinerie dans le vestiaire.
Tu es en train de livrer une prestation aussi fade et médiocre que celle de ton équipe de cœur.
Hervé, je savais pas qu'il était dans cette ambiance. Fallait prévenir. J'aurais pris mes dispositions.
Il n'y a pas de problème. Ça, c'est Hervé.
Il en garde.
Je me censure beaucoup depuis quelque temps.
Non. J'ai besoin de prendre aussi du temps, tranquillement. Bien sûr. Parce que sinon, après, on ne me comprend pas. Surtout avec l'accent marseillais.
Bien sûr.
C'est ça. Non, mais tranquillement. On parle de l'Olympique de Marseille avec Marcelino. Kamel lui donnait pas plus de 2 mois du côté de la Canebière. Les supporters commencent à être mécontents.
Je rappelle quand même que l'année dernière, Marseille a eu un 0-0, coach.
0-0 face à Toulouse.
L'année dernière, Marseille a eu un coach qui était dont on donnait pas cher de sa peau, qui était quasiment viré avant même le début des matchs officiels. Donc, prenons quelques semaines pour attendre, pour voir. Il va y avoir des échéances là. Il va y avoir le Paris Saint-Germain.
Il va y avoir la
Ligue Europa avec le match contre l'Ajax. On en saura plus. Après, pour l'instant, c'est sûr que c'est pas très bon. L'OM c'est pas terrible. Le match d'hier il est pas bon, même s'il est gagnable en vérité. Il y a quand même une vingtaine de tirs côté marseillais, donc c'est pas déshonorant contre une bonne équipe de Toulouse. Après oui, laissons-lui un peu de temps, mais c'est sûr qu'il y a des joueurs qui donnent pas la mesure encore de leur talent. Je pense à Correa qui à part visiblement il y a que le côté offensif du terrain qui l'intéresse. Kondogbia en jouant un match sur deux, ça va peut-être être compliqué de trouver sa mesure. Aubame, il est pas non plus totalement au niveau encore. Donc laissons un petit peu de temps, on en reparlera dans quelques semaines, mais ne coupons pas la tête d'un entraîneur au bout de à peine un mois. Rappelons-nous de Tudor l'année dernière.
Ouais, justement, Adnan en avait parlé de cet entraîneur qui est Marcelino du côté de la cité phocéenne. Oui Hervé, vas-y.
En fait, Marcelino, Marseille. Il a réussi l'exploit de faire regretter Igor Tudor, un mec qui était sur le point de se faire découper en pièces par pratiquement tous les supporters marseillais. C'est pour dire le niveau de médiocrité et le niveau d'impopularité de Marcelino. C'est-à-dire que le mec a quand même réussi à faire en sorte qu'on en vient à regretter l'époque Tudor. Souviens-toi comment les supporters marseillais parlaient de l'entraîneur croate. Il y a encore quelques semaines, tu vois, c'est pour te dire. Moi, je rejoins les mots d'Alexis. Il y a beaucoup de recrues d'individualité qui m'interpellent. Aubameyang, t'as l'impression qu'il a mis la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Parce que hier, je l'ai cherché tout le match, il était transparent.
Ah ouais, quand même.
Tu vois, Correa, il a peut-être une bonne gueule, mais faut qu'il apprenne qu'il est pas top modèle, mais il est footballeur. Vitinha, il est combatif. Mais ça cache quand même beaucoup de lacunes, balle au pied. Je l'ai vu rater beaucoup de gestes assez faciles. Je l'ai vu beaucoup rater dans le dernier geste, même dans le dernier tiers du terrain. Et même au-delà de ça, quand on regarde
le jeu marseillais, bah on s'ennuie en fait. On a l'impression de voir une équipe sans identité de jeu. Alors je veux bien qu'on fasse preuve de clémence et de mansuétude parce que c'est le début du championnat. Ouais. Il faut oublier que Marseille va jouer l'Ajax, va jouer Paris dimanche. Ils vont jouer Monaco puis Brighton.
C'est vrai.
Quand oui, je vois le début de saison marseillais, hein. Je serais pas étonné.
Il peut vite y avoir le feu. Ouais.
Ça peut très bien faire un zéro pointé sur les 4 prochains matchs.
Ouais. Donc après 5 journées, ils ont 9 points. Après 5 journées, ils ont 9 points. Ils sont 3e.
Je pense qu'on avait calé aussi. Hervé, il parle de l'entraîneur.
Ouais.
Je pense que dans les 3 dernières années, je pense que sur les 3, il y a eu 2 bons entraîneurs. 2 fois, il a été en conflit. Longoria, il a eu 2 fois en conflit avec Tudor au niveau du recrutement. Il a choisi un entraîneur qui peut le manipuler comme il veut.
Oui.
Et qui fait jouer les joueurs qui ramène. Maintenant le problème, moi je veux pas incriminer les joueurs qui fait venir ou Aubameyang ou tout ça. Moi je pense que le problème de Marseille, je pense que c'est la première année que Longoria il est dépassé. Il est dépassé dans le sens où qu'il a été prendre un entraîneur qui croyait que qui lui correspondait par rapport à comment il voit le football et comment. Et je pense qu'il a Longoria, il est dépassé. Je pense que le premier responsable des résultats de Marseille, c'est Longoria.
Ouais, Longoria
parce que c'est facile. C'est facile. Aubameyang, on le sait qu'il a 34 ans. Ouais. Il a choisi Marseille. On sait pourquoi il a choisi Marseille.
Ouais.
Tu prends le milieu défensif Gundogan. On sait pourquoi il est arrivé.
Ouais.
Parce que Marcelino, il était sous ses ordres à Séville. Il l'a eu à Valence, et tu vois tout ce rapprochement. Je pense que la mauvaise gestion, c'est pas le coach. Le coach, on sait que c'est un clown.
T'es dur, Boula. Quand même, Boula.
Mais c'est un clown.
Ouais,
okay. Parce que okay, quand tu viens, et tu fais pas jouer Unai, qui a des qualités.
Enfin, il jouait pas l'année dernière non plus. Hein.
Veretout, c'est moyen.
Avec tout le respect. Unai a été bon 3 semaines pendant la Coupe du Monde et avant et après, il n'a jamais été bon.
Je t'explique. Unai, maintenant, si l'entraîneur ils l'ont pas fait jouer, si ce joueur il a été forcé à le faire, il est pas responsable. Maintenant, donne-lui trois mois. Parce que si toi tu donnes 3 semaines à un joueur, comme Unai, moi je pense que Unai il a plus de qualité que Veretout, il a plus de qualité que Gondolbia. Je pense que je te parle des deux postes où il peut jouer.
Alors je suis pas un grand fan de Veretout, mais je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis.
Ouais, mais bon. Après moi, le seul mec que je respecte qui s'est imposé à Marseille, c'est Rongier.
Unai, il a été bon. Mais que pendant la Coupe du Monde.
Il a été bon avant et après.
Puis c'était personne.
Ouais, bah demande à l'entraîneur du PSG, tu vois ce qu'il va te dire.
0-1-0-3-48-3000 avec Khalid depuis la région parisienne.
Le nouvel entraîneur.
Non, le nouvel entraîneur.
Ok.
On demande ce qu'il va dire d'Unai.
Alors, Khalid, bonsoir.
Il a jamais vu un joueur comme ça.
Là, on écoute Khalid, l'auditeur.
Ça
va très très bien, Khalid.
Bonsoir, Khalid.
On parle de l'Olympique
de
Marseille.
Non, moi je vais pas intervenir, je vais pas parler de Marseille.
Là, c'est Marseille. Là,
j'adore.
C'est Marseille, désolé. Mais vous voulez.
Quand on dit Unai, il a rien fait, il est personne maintenant, il a montré en Coupe du Monde.
C'est ce que je dis. À part les 3 semaines en Coupe du Monde, moi je l'ai trouvé toujours zéro. Hein.
Ouais, mais un joueur, si tu le fais pas jouer,
il a été extraordinaire.
Ouais, mais un joueur, si tu lui donnes pas le temps de jeu qu'il mérite, il peut pas progresser.
Au bout d'un moment, Boula, le temps de jeu, ça se demande pas, ça se mérite.
T'inquiète
pas, si t'es pas bon à l'entraînement,
ça se mérite
de quoi? Tu joues pas le week-end.
Mares, quand il était en France, personne, il y a pas un club de première division qui le voulait. Fallait qu'il aille en Angleterre pour s'imposer. Déjà, voilà.
Verratti aussi, on est allé, ils ont dit au petit, et là, une petite taille, il n'a jamais réussi à rentrer dans un club. Donc, on arrête de parler d'Unai.
Non, mais on ne compare pas Unai et Verratti, là, quand même, les gars.
Non, je
ne
peux pas comparer les deux.
Ouais. À Angers, Unai, c'était pas terrible.
Verratti, à part PSG, personne ne le veut.
Non, mais tu peux pas comparer les deux, parce que quand Verratti part de Pescara, c'est un jeune, il a 19 ans. Tu vois, c'est un joueur qui est encore au début de sa carrière. Là, on parle comme de Unai, un mec qui a quand même la vingtaine. Là où je rejoins un peu Alexis, c'est qu'on a l'impression que le recrutement de Unai à Marseille, aussi bon soit-il, ça a obéi un peu à un panic buy. On a l'impression que ça a un peu été un achat qui a été fait un peu dans
Il a été bon pendant la Coupe du Monde, on le prend.
T'as vu, Hervé, ce que tu dis, c'est un achat qui a été fait. Je sais bien ce que tu dis parce que tu fais un lapsus révélateur. Quand tu dis, c'est un achat qui a été fait. Ça veut dire que c'est un achat qui est fait comment? Moi, pour moi, c'est un footballeur qui a fait une bonne Coupe du Monde. Oui. Ils ont mis 7 millions d'euros sur lui.
C'est un panic buy, en fait. C'est un peu
ils ont mis Barcola, il a rien prouvé, ils ont mis 50 millions.
C'est un panic buy. Mais si on revient à Khalid, rapidement, Khalid, avant de terminer.
Non, mais rapidement, en fait, moi, je voulais revenir sur un autre sujet par rapport à l'auditeur qui est intervenu pour le sport en France.
Oui, c'est l'invité.
Voilà. Moi, je travaille dans le sport, Et moi, je voulais dire, ici, actuellement, il n'y a pas autant de médailles en France. Moi, j'ai envie que, je sais pas, la ministre du sport et tout ça, qui se retourne vers le sport amateur. Moi, je travaille dans le sport amateur, mais il n'y a personne qui contrôle. Quand vous voyez la licence des jeunes joueurs qui ont 6 ans, 7 ans, qui payent leur licence 170 euros, d'accord ? Et quand un club, il a 1000 licenciés, ou même 700 licenciés, ça fait 180 000 euros dans la poche.
Donc, c'est vrai ce que tu dis.
Mais oui.
C'est vrai ce que tu dis que laisse-moi te couper. C'est pas le sujet. Mais maintenant ce que je vais te dire là, c'est dommage que qu'on t'a pas pris tout à l'heure.
Ouais.
Et c'est vrai que le football amateur, ils ont formé beaucoup de joueurs de haut niveau.
Mais justement, donc c'est pour ça que je parle moi actuellement.
Alors.
Mais qui contrôle cet argent-là? Où va cet argent-là?
Ouais.
Moi, j'ai travaillé dans une mairie où je voyais beaucoup d'argent, et que c'était les présidents et les secrétaires qui ont profité, qui ont envoyé leurs enfants étudier à l'étranger, et que un papa qui gagne le SMIC, qui envoie son enfant, ou qui a deux enfants, qui les envoie faire du sport, et paye de l'essence 320 euros.
Ouais.
On lui chaussure de fou.
Alors.
Alors, juste entre parenthèses,
oui.
Pour une licence de 170 euros, le club donne 20 euros à la fédération.
Ouais, donc, ça reste un problème quand même.
Mais qui contrôle ces gens-là? Qui contrôle ces clubs-là?
Ça, on pourra en revenir. Khalid, on pourra en revenir. On doit enchaîner avec aussi le football italien, avec nos consultants. Khalid, je vous promets, on va revenir sur cela dans cette émission.
Non,
mais bien sûr. Mais vous avez lancé, et nous, on reviendra spécialement avec vous sur une émission, rien que sur ces sujets-là, notamment avec le prix des licences et tout ce qui va avec concernant le sport amateur. C'est promis.
Et ça concerne pas que le football.
Pas que lui. On a Nasser aussi. On a Djouba qui nous appelle. Alors Nasser, on va commencer avec lui. Nasser, avant la fin de cette émission. Bonsoir Nasser.
Buonasera Nasser.
Oui Nasser, il est très très loin Nasser. On l'entend plus Nasser.
Je crois qu'il est à San Siro.
Là Nasser,
Si. Buonasera a tutti, un piacere essere con voi. Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver, mes chers amis. Et une petite dédicace au FC Saint-Brice, au football amateur, avec Ayman et Dan Wassim, et sur le numéro Dice, Camille, du joueur du FC Saint-Brice, et des petits gamins qui évoluent en section jeune. Ça fait plaisir, le football amateur.
Eh ben oui, Nasser. Vous nous manquez, Nasser, hein. Mais ça va, on a le Buonasera de Sola, le réalisateur. Voilà. En tout cas, vous manquez aussi à Boula.
Ce soir,
Alexis.
Ça me fait plaisir.
Eh ben oui. Nasser, l'Olympique de Marseille, Marcelino, avant de revenir du côté de l'Italie avec, il paraît, il est sur la sellette déjà, c'est Rudy Garcia, hein, avec le Napoli. Hein.
Exactement.
Ouais, alors,
exactement,
on vous écoute.
Exactement, puisque. Pour parler bien sûr du Napoli qui va mal, actuellement le résultat du côté du Genoa ce week-end, Rudy Garcia qui fait la une de la presse transalpine et qui bien sûr Rudy Garcia est menacé car vous savez dans les prochains jours il y aura bien sûr la Ligue des Champions et puis le championnat avec un programme très très chaud notamment du côté de Bologne et on parle déjà pourquoi pas de son départ dans les prochaines journées à suivre du côté du Napoli.
Eh oui, justement. Eh ben, tout comme Marcelino, peut-être, hein. À Marseille.
Oui, Marcelino,
ils peuvent échanger, du coup.
Pour le changer. Ouais. C'est vrai. On en rigole, mais bon.
Pourquoi je rebondissais sur Rudy Garcia, c'est que vous le savez, le Napoli avait hésité avec le coach Galtier. Son nom commence à circuler ici, du côté des deux. Alpes, et on parle de lui, pourquoi pas, pour reprendre l'équipe de Naples, ça a failli le faire tout début de la saison, et là, Rudy Garcia ne fait pas du tout l'unanimité, et c'est même, on va le dire gentiment, pris la tête avec son attaquant géorgien,
avec Varadkelia,
géorgienne, Voilà, exactement, et ça va pas du tout du côté de Naples. Alors que du côté du Milan AC, bah elle aussi c'est pareil, et pour ça, demain soir à 20h45, ouais, ça sera à suivre du côté du Giuseppe Meazza, c'est face ça, à Newcastle. Ça serait aussi, pourquoi pas, vous donner les résultats ici en Italie de cette rencontre de Ligue des Champions, c'est ouais, demain soir.
Ouais, c'est le bon résultat de Paris. J'ai une question pour Nasser.
Vas-y,
voilà, Vlahovic, Dusan Vlahovic, enfin... commencer à renaître des cendres en marquant un doublé ce week-end. Je voulais juste savoir si tu pensais que cette saison pouvait être la saison de la renaissance pour Dusan Vlahovic après une dernière année assez compliquée du côté de la Juventus.
Alors, il en pense quoi, Nasser, avant de retrouver rapidement Juba?
Ouais, déjà l'équipe de la Juve reprend bien sûr des couleurs, même s'il y a eu à un moment donné un problème avec le joueur français Pogba. D'ailleurs, ça fait doucement bien sûr plaisir aux dirigeants qui souhaitent bien sûr son départ. Et en fait, c'est ce défaut. Mais Vlahovic, effectivement, il est repris du poil de la bête et il devrait faire une très très belle saison ici en Italie.
Un grand merci, Nasser, pour cette
belle émission. Merci à vous tous. C'est un plaisir de vous entendre tous les soirs ici, que ce soit à Milan, que ce soit à la Juve, partout
merci,
on parle de vous.
Nasser, bravo pour Metz.
Et partout en Italie.
Voilà. Bravo pour Metz, Nasser.
Bonsoir à Rudy Garcia.
Voilà, il a écouté, il a entendu le bravo de Boula. Bonsoir Juba. Juba, comment ça va? Rapidement Juba, il nous reste même pas 1 minute 50 avant la fin de cette émission. Il est avec nous? Juba? Il n'est pas là, Juba. Eh ouais. Ben Juba, ben il est déjà. Non.
Ah,
ben
tu t'armes. Mais
quand même, Hervé. Non, mais ce soir, c'est la roue libre.
Tout comme Boula qui regarde un magnifique but et qui se stoppe devant la télé.
Il est venu pour un studio, Hervé.
Enfin bref.
Ah, le tac, c'est un assassin.
Il est incroyable, le tac, là. Il arrive à tacler deux joueurs.
Mais il mérite 6 mois dans la gueule.
Ah oui, c'est possible. Ah oui.
C'est méchant.
Ben ouais, il passera en commission, t'inquiète pas.
Mais le monde est méchant,
Boula. Eh oui. Boula, il est assez gentil. Boula, toujours fervent supporter de ces Jeux Olympiques 2024. On l'espère en tout cas, de magnifiques Jeux dans l'Hexagone. Et aussi, voilà quoi, pour les athlètes et les amoureux du sport, n'est-ce pas Hervé? Eh oui, Hervé.
Ouais, pour nous quand même un peu, ce serait bien qu'ils pensent à nous.
Ouais, hein, bah, ils vont penser à toi, ne t'inquiète pas.
Ouais, bah là pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup pensé à nous. Les Jeux populaires, excuse-moi, ils sont tout sauf populaires pour le moment.
Ah ben ouais, ça c'est toi qui dis, Alexis. En tout cas, il y a
beaucoup de gens qui partagent mon constat, je ne me fais que leur porte-voix ce soir.
Je ne sais pas. Voilà, vous pourrez réagir avec Vanessa, 21h, 23h. Un grand merci Hervé de m'avoir accompagné. Eh oui Hervé, émission de Ligue 2 peut-être ou du National ce soir. Dommage, demain ça sera la Ligue des Champions. Désolé Hervé.
Changement d'ambiance.
Je vous écouterai.
Je refais face à ton tacle à la gorge.
Oui,
j'ai
compris.
Assez appuyé.
J'ai compris.
Un grand merci d'avoir été avec Hervé, notre consultant Alexis, pour sa rentrée. Sans oublier Boula. Boula, un grand merci à
toi. Un grand merci à Boula.
Et à la réalisation aussi, en la personne de Solal. Vous retrouvez Vanessa et nous, on se retrouve dès demain. Une très bonne soirée à toutes et à tous.
Bonne soirée à tous.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.